l'épopée des musiques noires.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omani kobena.
L'épopée des musiques noires.
It's okay. You know, it's okay.
Ah, merci.
Les plus mélomanes d'entre vous auront certainement reconnu le grand classique d'Herbie Hancock, Watermelon Man, dans une version totalement réactualisée grâce à la maestria d'un compositeur et bassiste sénégalais que nous prenons toujours plaisir à accueillir dans cette émission. Il nous présente aujourd'hui New African Orleans, un album transatlantique qui cherche le lien entre les traditions africaines et américaines. Souhaitons la bienvenue à Alun Wad. Bonjour.
Bonjour Joe.
Vous avez toujours été un instrumentiste en quête d'authenticité. Ce nouvel album reflète cette aspiration à déceler la source de votre créativité, qu'elle se trouve à Dakar, Lagos, Accra ou à la Nouvelle-Orléans. Quel a été finalement le point de départ de cette recherche historique ?
Alors, comme vous savez, on continue d'apprendre, on fait des rencontres, on apprend en venant des autres. Donc, plus on avance, plus on a aussi envie de mettre sur la table ce qu'on a appris durant ces 10 dernières années ou 5 dernières années. Donc je pense que c'était vraiment la suite logique aussi des choses, après d'avoir rencontré aussi sur le chemin beaucoup de musiciens, beaucoup de belles personnes qui viennent des États-Unis certes, qui viennent aussi de l'Afrique du Nord et un peu partout dans le monde. Je pense que c'était vraiment naturel pour moi de faire un album comme ça ou de juste raconter une histoire qui est faite ainsi.
Pourquoi dit-on que la Nouvelle-Orléans est la ville la plus africaine des États-Unis ?
Je pense que c'est dû à beaucoup de choses. C'est le Baya des États-Unis. Parce qu'en fait, ils ont réussi à garder cette histoire. Ils ont réussi à garder les liens, les racines qui les lient de l'Afrique. C'est une ville qui est quand même assez intéressante, qui me rappelle très souvent aussi la ville de Saint-Louis. Parce qu'il y avait aussi une forte présence française à la Nouvelle-Orléans, comme on l'a eu aussi au Sénégal, à Saint-Louis du Sénégal. Il y a beaucoup de choses qui nous lient à l'Amérique, certes, mais surtout à la Nouvelle-Orléans. Par exemple, la cuisine, les épices, le côté spirituel comme le voodoo, la musique, on est vraiment lié à la Nouvelle-Orléans.
Sur votre album, il y a plusieurs références à l'épopée africaine sur le continent américain. Je pense notamment à un titre « From Congo to Square ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que représente Congo Square pour les néo-orléanais ?
Alors, Congo Square, moi, en fait, lorsqu'on parle de Congo Square, je pense à la liberté. Ce jour de liberté que les esclaves avaient tous les dimanches, le seul lieu aux États-Unis où les esclaves pouvaient se réunir et jouer et sortir ce qu'ils avaient dans les tripes, c'était au Congo Square. C'est une place, bon, on l'a nommé Congo Square, mais il n'y avait pas que des gens du Congo. Parce qu'à l'époque, voilà, on était noirs, voilà, ils ne savaient pas qui venait du Sénégal ou du Cameroun ou du Congo. Et c'est surtout toute cette partie de l'Afrique, surtout centrale, qu'on appelait la communauté congolaise, quoi, les gens du Congo, et qui se retrouvaient tous les dimanches sur cette place qui se trouve à la Nouvelle-Orléans, et qui jouaient, qui dansaient. Et c'est devenu la place du Congo.
Beaucoup de vos ancêtres ont été arrachés à leurs terres et envoyés aux Amériques depuis l'île de Gorée au Sénégal. Mais une culture a subsisté. Qu'y a-t-il de singulièrement africain dans le jazz, dans le swing américain?
La base, le socle, l'histoire. Le jazz dépasse le jazz et plus qu'une musique. Le jazz est plutôt un mouvement, je pense. Je pense que le jazz est l'une des choses les plus belles que l'humanité a pu créer durant ces 3 siècles d'esclavage, je pense. Parce que dans le jazz, qu'on soit noir, jaune, bleu, blanc, on peut s'y sentir à l'aise. C'est grâce à ces esclaves qui ont quitté l'Afrique, qui sont partis avec leur connaissance. Ils sont pas partis certes avec les instruments, mais ils sont partis avec leur rythme, ils sont partis avec cette souffrance, avec ce coup de blues qu'ils avaient. Et au fur et à mesure, ils ont réussi à créer le jazz en invitant les autres communautés. Ils ont commencé par le blues, le woogie, et donc du coup, ça a donné le jazz que, certes, l'Afrique, c'est le berceau, c'est la base, mais aussi, il y a aussi une forte présence européenne dans le jazz, avec les instruments européens, bien sûr, comme le classique, le banjo aussi, ou le piano. On sent l'Italie dans le jazz, on sent aussi la communauté juive ou espagnole et arabe. Les racines viennent de l'Afrique. L'arbre est né aux États-Unis, mais l'arbre a réussi à fleurir partout dans le monde.
Dans le film Touki, le documentaire qui accompagne la sortie de votre album, plusieurs musiciens évoquent cette pulsation africaine préservée à Congo Square depuis des siècles. Kirk Joseph, Widi Brahima y font allusion. Est-ce que vous pensez leur avoir apporté une part de votre ancestralité en les conviant à participer à votre album?
Ouais, je pense, oui, surtout quelqu'un comme Kirk, parce que Widi, ça va encore, parce que son père est africain, était un très grand musicien ghanéen. Kirk, c'était la première fois qu'il se mélangeait avec des Ouest-Africains, des musiciens d'Afrique de l'Ouest. C'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel pour lui. Je pense, en fait, moi je dis, c'est souvent l'Afro-Américain qui part à la recherche de ses racines, mais cette fois-ci, c'était plutôt les racines qui étaient à la recherche des branches perdues. C'est vrai que certes, les moyens ne sont pas pareils. C'est souvent l'Américain qui part en Afrique, comme j'ai dit. Mais cette fois-ci, c'est surtout l'Africain qui partait aux États-Unis pour retrouver ses branches, pour retrouver ses musiciens et savoir réellement ce qu'ils avaient et avec quoi ils étaient partis. C'est ce qui m'avait aussi donné envie de mettre de la lumière sur ce qui nous lie avec l'autre côté de l'Atlantique, qui est les États-Unis, et ce qui m'a donné aussi vraiment cette force et l'envie de faire cet album qui se nomme New African Orleans.
Qui a le plus appris de ce projet, vous ou eux?
Moi, bien sûr, j'ai beaucoup appris, et eux aussi, parce que quelqu'un comme Kirk, quand on était en studio, je lui ai dit, n'essaie pas de jouer comme nous, joue-toi. Pourquoi je t'ai appelé, c'était pour avoir cet esprit brass band, second lines de la Nouvelle-Orléans, dans le groove Mbalax ou High Life ou Afrobeat, et le mélanger avec la second lines de la Nouvelle-Orléans. C'est ce qui nous a donné des morceaux comme Boogie and Juju d'ailleurs. On voit qu'on ressent vraiment qu'ils ont quitté depuis 200, 300 ans maintenant. Entre-temps, ils se sont enrichis avec d'autres, avec les Indiens. Après, ils ont même réussi à créer une autre communauté comme les Black Indians. Ils se sont mélangés avec d'autres, avec des Européens, tout ça. Du coup, ça leur a donné d'autres pulses qui n'est plus comme les nôtres. Donc le fait d'avoir ces deux, ça nous a créé, je pense, en studio, une richesse assez exceptionnelle, en fait.
En tout cas, le résultat est somptueux, comme sur ce titre « From Congo to Square » avec la participation de la chanteuse américaine Somi, dont les origines ougando-rwandaises magnifient l'intention universaliste de votre album.
Oui.
Bak park dagana chate fe so la nyo baye ko on way break up gal de su ko way chifte fes mom lolulerna chate fe su bayu la bay galai rawale mam anta majige galu jakari so pe ko don tai galu bagi
From Congo to Square, la chanteuse Somi, invitée de l'album New African Orleans du bassiste et chef d'orchestre Alun Wad. Nous avons beaucoup évoqué la partie américaine de votre périple, mais l'Afrique n'est pas en reste puisque vous avez aussi été enregistré à Lagos, au Nigeria. Pourquoi d'ailleurs ?
En fait, ce que je trouve assez intéressant sur ce projet, c'est cet effet boomerang. C'est-à-dire, cet esclave qui est parti, certes, avec les rythmes, qui avait perdu sa liberté. Mais lorsque l'Afrique était devenue libre, les instruments américains ou européens sont revenus en Afrique dans les années 50, 60. Même, je dirais même un peu plus tôt au Sénégal. Par exemple, les premiers orchestres de jazz au Sénégal, à Saint-Louis, c'était dans les années 20. Parce qu'il y avait une forte présence française. Mm-hmm. Il y avait les métis qu'on appelait les mulâtres à l'époque. Et qui jouaient dans l'armée française, les tirailleurs, tout ça. Je m'étais dit que ce serait quand même bien, certes, ok, de faire un album jazz, mais mélangé avec l'afrobeat. Donc, quand on parle de l'afrobeat, on parle des brass bands, on parle de quelqu'un comme Fela Kuti, on parle des instruments à cuivre. Il y a un son que je voulais avoir, c'était vraiment un son de Lagos, un son nigérien, par rapport au cuivre, le baryton, le sax et la trompette. Le choix m'est venu comme ça, et aussi avoir aussi ce côté high life qu'on a au Ghana et au Nigeria.
Sur votre album, vous adaptez un classique de Fela Nicolapo Kuti, Water, No Get Enemy. Quelle était votre intention en revitalisant cet hymne du Black President ?
D'abord, en fait, ce que je voulais faire, moi, je le fais très souvent sur scène. Je joue souvent des morceaux de Hugh Masekela, de Manu Dibango, de Fela, parce que je me dis qu'en fait, c'est à nous de faire cela. Comme le font les Américains, souvent, ils reprennent des titres de Frank Sinatra ou de Miles Davis. Nous aussi, on doit en faire pareil avec nos aînés. Quelqu'un comme Manu Dibango ou Fela, ce sont des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Et aussi, ce titre, c'est un titre quand même qui est assez engagé, qui parle de l'eau. Et surtout, quelqu'un comme Fela avait réellement sa place sur cet album. Et je voulais le faire avec un titre phare. C'était un peu délicat parce qu'il fallait se démarquer de son groove. Parce qu'on ne peut pas le faire comme la version originale. Je vais le faire, mais à ma manière. Avec le son de 2025, pas le son des années 70. C'est pour cela que j'ai cassé le groove et j'ai rajouté aussi d'autres accords. Donc j'ai gardé le chant, certes, et les cuivres, mais au niveau harmonique, j'ai tout changé.
Diriez-vous que l'afrobeat et le jazz ne sont qu'une seule et même forme d'expression ?
Je pense qu'en fait, tout est jazz. Que ce soit l'afrobeat, high life, le rock, tout, tout. Le jazz, c'est le socle, comme j'ai dit tout à l'heure. Le jazz dépasse une musique, c'est un état d'esprit, un mouvement, le fait de vouloir rassembler tout le monde autour d'un seul but, c'est ça le jazz. L'afrobeat est dedans, le high life, la musique française, valse, tout est dans le jazz.
Fela Kuti était un jazzman?
Oui, 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 il a été influencé, que ce soit Fela ou Manu Dibango, Yuma Sekela, tous ces musiciens, même Youssou, c'est des gens qui ont écouté du jazz. Je pense qu'en fait, ils l'ont aimé avant même de savoir que c'était le jazz. Vous voyez, en fait, cette connexion que nous avons avec cette musique noire, mais c'est une connexion assez naturelle, hein, même avant de savoir qu'est-ce que c'est le jazz ou le rock and roll. On l'aime, on se sent chez soi quand on écoute le jazz. On est tous des jazzmen.
Pour le documentaire Tuki, qui épouse votre album, vous avez rencontré Femi Kuti, son fils.
Ouais.
Il est lui-même un grand amateur de jazz. Il relie les deux rives de l'Atlantique. Diriez-vous que votre intention artistique rejoint la sienne?
Effectivement, je pense qu'en fait, nous avons tous les mêmes intentions à un moment donné, en fait. Parce qu'on défend tous les mêmes causes. Même si on ne vient pas du même pays ou même ethnie, l'histoire est pareille, on est tous dans le même bateau. Donc peut-être ça peut être différent la façon dont on le fait, mais nous défendons tous les mêmes causes. Et aussi son père qu'on connaît, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré et on l'a beaucoup écouté. Donc on peut dire aussi qu'on est tous ses disciples. Nous avons tous le même guide, quoi, que ce soit Femi, Sion, moi ou quelqu'un d'autre. On a tous écouté Femi, comme on a écouté Manu Dibango, comme on a écouté Salif. Ouais, nous sommes leurs disciples, c'est eux les écoles.
Finalement, votre album New African Orleans est une ode aux grandes figures afro-planétaires, Herbie Hancock, Fela Kuti et même Jimi Hendrix. Mm. C'est votre guitare héros?
Jimi Hendrix, ouais, qui n'a pas aimé Jimi Hendrix? Jimi Hendrix, avant de choisir même la basse, j'ai adoré son look et tout. Et surtout, je pense que ce titre, Voodoo Child, c'est un titre qui a vraiment sa place sur cet album. Par exemple, j'ai découvert le titre Voodoo Child de Jimi Hendrix avant même de savoir ce que c'était le voodoo. Parce qu'au Sénégal, on a nos pratiques, mais qu'on ne nomme pas le voodoo. On a d'autres noms, qui, le Ndup, le Khoi, c'est d'autres noms qu'on utilise. C'est comme du voodoo. C'est le nom voodoo qui est le plus connu. Et c'est par la suite, je pense que je devrais avoir 10-11 ans, lorsque j'écoutais ce titre, j'ai demandé, on m'a dit ce que c'était le voodoo. Et le voodoo est présent à la Nouvelle-Orléans.
L'un des grands sorciers voodoo de la Nouvelle-Orléans, c'est évidemment le regretté Dr. John, qui jouait beaucoup d'ailleurs sur cette image fantasmagorique du prêcheur inquiétant. Et vous lui faites un clin d'œil en reprenant Grigri Gombo Yaya sur votre album. Sa légende est-elle toujours aussi vivace à la Nouvelle-Orléans?
Ouais, ouais, ouais. Il y a encore une forte présence. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais partout, on voyait du Dr. John, quoi. Et c'est tous des Dr. John là-bas à la Nouvelle-Orléans, en fait. C'est incroyable, c'est incroyable. Lorsque j'avais commencé à m'intéresser à la Nouvelle-Orléans, j'avais découvert un livre, Les 100 ans de la musique de la Nouvelle-Orléans. Et c'est comme ça que j'ai découvert réellement le nom de Dr. John et le titre Grigri Gombo Yaya, qui venait d'un esclave de Sénégambie, du Sénégal, qui a été capturé après, emmené à Cuba. Après Cuba, il est parti à Haïti lorsqu'il était affranchi. Après, il est allé s'installer à la Nouvelle-Orléans, dans les bayous. Et c'était un guérisseur, en fait. Et c'est quelqu'un qu'on appelait Dr. John. C'est quelqu'un qui était très proche aussi de Marie Laveux à l'époque, il paraît, quoi. C'était un guérisseur. Et lorsqu'il était au Sénégal, c'était un prince, il paraît. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de réécouter le morceau Grigri Gombo Yaya et de faire aussi une autre version, comme j'ai dit tout à l'heure, une version 2025, quoi.
Dr. John, grand pianiste, grand chanteur, grande figure de l'épopée des musiques noires. Vous entretenez en tout cas sa mémoire en faisant allusion à l'album Night Tripper, 1968, à travers cette composition qui ouvre votre album New African Orleans. Ouais. We'll be right back. Night Tripper, extrait du nouvel album d'Alun Wad, une révérence aux regrettés sorciers de la Nouvelle-Orléans. Dr. John, disparu le 6 juin 2019 à l'âge de 77 ans. Alun Wad, vous êtes un sacré globetrotter. Vous avez joué avec des artistes de tous horizons, de Marcus Miller à Harold Lopez Nusa, en passant par Oumu Sangaré, Bobby McFerrin, Gregory Porter, Youssou N'Dour, Salif Keïta, Ismaël Lô évidemment, ou Bella Fleck. Quel enseignement principal avez-vous tiré de tous ces voyages et de toutes ces rencontres ?
L'enseignement, c'est cet album, je pense. J'ai l'obligation de faire des albums aussi riches parce que j'ai été vraiment chanceux d'avoir ces belles opportunités de croiser Marcus Miller, Ismaël Lô, Salif Keïta, Cheikh Tidiane Seck, Paco Seri, Oumu Sangaré, Aziz Sarmawi. Donc quand je fais des albums, l'obligation que j'ai, c'est de faire des albums aussi mélangés, aussi riches, pas 100% Sénégal, 100% parce que je n'ai pas joué qu'avec des Sénégalais ou peu avec des Maliens. Donc du coup, j'ai appris beaucoup de choses. Ces gens que vous venez de citer, en fait, moi, je les vois que ce sont mes écoles. Moi, je n'ai pas fait école de musique. Mon école de musique, ce sont ces gens. C'est un Marcus, c'est un Salif, un Cheikh Tidiane, un Paco Seri, Ismaël Lô, tout ça. J'ai tout appris avec eux. Moi, je dis que mon style, c'est d'avoir la liberté de faire toutes sortes d'albums que j'ai envie de faire parce que j'ai croisé beaucoup d'artistes. Chaque album est considéré comme un bouquin. On raconte une histoire. J'ai fait un saut entre l'album d'African Fassour et New African Orleans. Mais entre les deux, il y a eu Sultan, que j'ai enregistré en Tunisie. Sultan, on ressent vraiment l'influence Maghreb, quelqu'un comme Aziz Sarmawi avec les Gnawa, l'influence aussi de l'Afrique de l'Est, comme Ethio Jazz, tout ça. Et j'avais envie aussi de sortir ce côté de moi. Certainement, peut-être, je ne sais pas, le prochain, ça va être de la musique classique, comme je l'ai écouté, ou je ne sais pas.
La musique scandinave.
Et musique scandinave, voilà. Mes albums ne sont pas juste anodins. Je ne les sors pas par envie. Je les sors parce que chaque album raconte une histoire ou bien un passage de ma vie, d'une expérience que j'ai eue avec des musiciens ou sur le chemin durant une tournée.
Quel pays ou région du monde vous a le plus marqué ?
Écoutez, je pense que je vais dire le premier pays que j'ai visité en tant que musicien lorsque j'avais 18 ans, je pense 19 ans, ouais, c'était le Mali. En tant que professionnel, je suis allé au Mali la première fois, j'ai pris même l'avion pour voyager, j'étais avec Ismaël Lô. C'était en 96 ou 97.
Vous étiez un enfant.
Mais oui, je me rappelle, c'est mon père qui m'avait emmené à l'aéroport d'ailleurs. Donc c'était ma première tournée et c'était incroyable. Le fait d'être juste à côté d'Ismaël Lô, d'être avec ses musiciens, monter sur scène, jouer à Bamako, c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi, quoi.
Et le Mali, c'est une terre musicale ?
Ah, le Mali, oui. J'aime tellement ce pays. Le Mali, c'est le Sénégal, c'est le Mali, quoi. On est très, très connectés, très liés. Ça m'inspire beaucoup, oui. C'est la terre blues là-bas. Quand on écoute le Wassoulo de Oumu Sangaré, c'est du blues. C'est pour cela qu'Oumu arrive à se mélanger avec des chanteurs blues de Mississippi ou de la Nouvelle-Orléans facilement, naturellement.
Ali Farka Touré avait joué aussi avec Ry Cooder.
Effectivement,
par exemple.
Ouais, ouais, ouais.
Je signale à nos auditeurs que vous êtes actuellement en tournée. On pourra vous applaudir prochainement en Norvège, en Suède. Vous présenterez le documentaire Touki des racines au Bayou le 22 mai. À Dakar, où vous jouerez le lendemain. Le 29 mai, vous serez à Saint-Louis du Sénégal pour le festival. Le 4 juin, au studio de l'Ermitage à Paris, puis au Musique Métis d'Angoulême le 7 juin, sans oublier le Marseille Jazz des 5 continents le 13 juillet 2025. Toutes les dates sont sur votre site alunwad.net. Est-ce qu'un concert à la Nouvelle-Orléans est prévu ?
En novembre.
Ah.
Oui, parce qu'on est en tournée aux États-Unis en novembre, à New York, Boston, et on clôture la tournée, je pense, à la Nouvelle-Orléans.
Et vous allez solliciter les musiciens qui apparaissent sur l'album ou dans le documentaire ?
Forcément, oui.
Donc on aura Kurt Joseph ?
Ah, mais il y aura tout le monde, ça va être une parade sur scène, oui.
Bien, nous sommes impatients en tout cas. Alun Wad, j'aimerais que nous terminions cette émission avec un titre qui vous ressemble bien, c'est Taxi Driver. J'imagine que c'est une allusion à votre statut de grand voyageur.
Moi, on peut dire, oui, aussi, surtout le Taxi Bruce. Parce que quand je me déplace avec tout l'orchestre, avec aussi tout ce que j'ai eu comme connaissance, avec toutes mes valises. Du coup, un Taxi Bruce aussi se déplace avec plein de bagages. Et c'est vrai que certes, c'est très fatigant, mais tout dépend aussi de l'entourage avec qui on se déplace. Ça joue beaucoup. Quand on est avec des gens qui sont quand même assez joyeux, ça enlève aussi l'épine de cette fatigue qu'on se traîne, le fait de se réveiller à 5h, 6h du matin tous les jours pour aller prendre l'avion ou le train. Et après le concert, quand on voit le public qui en demande encore, c'est toujours un plaisir. Ouais, c'est ce qui nous manque d'ailleurs lorsqu'on rentre à la maison.
Et là, vous arrivez d'où ?
Alors là, on était à Lille et juste avant Lille, on était au Ghana. Avant le Ghana, on a été où ? À Bordeaux. Et il y a un mois de cela, je pense qu'on a fait une tournée en Roumanie. C'est un peu...
Voilà, c'est des voyages nord-sud perpétuels. Est-ouest, nord-sud.
Et semaine prochaine en Scandinavie.
Norvège et Suède.
Ouais.
Vous n'arrêtez pas.
Non.
Bon. Prenons la route avec vous, Alun Wad. Taxi Driver, Alun Wad en 2025 sur l'album New African Orleans. Excellent album, Alun Wad. Et ce fut un bonheur de vous accueillir une fois de plus dans cette émission.
Merci Joe.
Tous nos voeux de réussite vous accompagnent pour ce nouveau disque. Merci beaucoup. Dieu rediev.
Nyoko Boko. Bobin Nyon.
L'émission du jour était réalisée par une Africaine de cœur, Nathalie Laporte, qui fait swinguer les ondes avec goût et sensibilité. La semaine prochaine, nous célébrerons les 75 ans de Stevie Wonder, en remontant le cours de l'histoire jusqu'à l'année 1962. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.